Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Axel Mauger.
Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le docteur Yves Poulika de l'Académie française qui revient d'un séjour en Chine où il a rencontré le représentant des alliances françaises. Alors, je rappelle tout de même que Yves Poulika est un très célèbre ophtalmologue de la faculté de médecine de Paris et très pointu dans le domaine de la recherche sur la cornée et qu'il a repris en 2001, il a été élu à l'Académie en 2001, à la suite de la disparition de Louis le prince Ringuet. Je rappelle que, outre de très nombreuses décorations, commandeur de la Légion d'honneur, grand officier de l'Ordre national du mérite, une distinction prix mondial Sino del Duca, je rappelle que le docteur Poulika est l'auteur de nombreux livres et qu'il a publié récemment, depuis 2008, Le médecin, le dictateur aux éditions Odile Jacob, un livre tout à fait intéressant sur l'Albanie, que j'ai lu. Et en 2009, Félix Vic d'Azyr, Les Lumières et la Révolution aux éditions Odile Jacob. Et que c'est le docteur Poulika qui a fait le discours de réception de Jean-Christophe Ruffin à l'Académie française. La réponse est d'Yves Poulika et ça a été publié aux éditions Gallimard. Alors, cher docteur, je suis extrêmement heureux de vous recevoir aujourd'hui sur les ondes de Canal Académie. Et nous allons parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Vous tient à cœur, nous tient à cœur, c'est le français dans le monde et notamment là, dans cette autre moitié du monde qui est la Chine. Et je dois dire que, juste en préambule, avant de, bien sûr que nous ayons cet entretien privilégié, il faut rappeler que la présence française en Chine remonte à fort loin. Je pense me souvenir que c'était le franciscain Guillaume de Rubruck qui était en ambassade auprès du camp Monguet en 1253, c'est-à-dire, il faut quand même ne pas l'oublier, une vingtaine d'années avant le fameux voyage de Marco Polo. Alors, ça a très vite évolué. Je donne juste quelques chiffres avant que nous nous entretenions ensemble. Ça a très vite évolué parce que nous partons... Il y a eu la fameuse période de Shanghai, lorsque les Français ont vraiment aidé au développement de Shanghai. Il y a eu la Révolution chinoise. Il y a eu ensuite la Révolution des Gardes Rouges, pour faire bref. Et nous sommes passés de quelques centaines d'étudiants au plus haut niveau universitaire à quelques milliers à la fin des années 90 à, je crois aujourd'hui, au niveau vraiment universitaire, 15, 20 000, 30 000. Et juste encore quelques petits chiffres avant vraiment de parler de ce voyage passionnant qui a été le vôtre, c'est que les étudiants qui viennent maintenant étudier en France, qui étaient quelques centaines à la fin des années 90, il y a 5 ans, le chiffre, je l'ai vraiment dans la tête, était à peu près 15 000, sont aujourd'hui 30 000 en France, étudiants chinois. Donc, il y a un développement de la francophonie qui part de très bas, soyons honnêtes, mais qui maintenant est en train de se hisser. Alors, vous avez été invité en Chine récemment et vous avez fait un voyage qui vous a passionné.
Oui, c'est vrai. D'abord, je redécouvrais un peu la Chine, une Chine que je ne connaissais pas, que j'avais visité la zone de Pékin avant, mais Shanghai, je ne connaissais pas. En plus, c'était une mission française, puisque c'était M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, qui m'a délégué en mission en Chine pour, je dirais, représenter l'Assemblée nationale et la France le jour consacré à la francophonie. Car il y avait un jour consacré au sein de cette exposition universelle à la francophonie. Alors, mon première approche a d'ailleurs été, je dirais, personnelle, en contact des quelques Chinois parlant français, qui ont, vis-à-vis de la France, je dirais, une admiration qu'a priori, on saisit mal dans le sens de cette admiration. Mais il y a, pour eux, d'abord un mot qui vient tout le temps, la France, c'est romantique. Mais c'est aussi la loi et la règle. Et c'est aussi une référence. Il y a dans l'histoire du monde, la France, j'ose pas dire que c'est pour nous la référence grecque pour notre naissance et notre vie et les Lumières et ce que nous sommes, mais c'est un petit peu ça, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais il y a quand même quelque chose de ça dans l'esprit des Chinois, qui ont manifestement un intérêt pour notre pays. Notre pays est spécial. Il est engrillé, il est spécial. Et naturellement, la langue que l'on y parle.
Le pays de la formule et de la formulation.
Voilà, oui. Et là, il y a une sorte de respect pour la France. Et je pense que cet esprit français, au-delà de la francophonie et au travers de la francophonie, c'est ce qui est recherché. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que notre langue aussi a su traduire cet esprit français et qu'au travers des mots, on comprend ce qu'est la France.
Voilà, je crois que là, vous avez saisi cette... J'ai été très frappé moi-même, ayant un temps fréquenté l'ambassade de Chine à Paris, et je connaissais bien le premier secrétaire, qui considérait, et j'avais été ému par ses paroles, considérait que la France était... un très grand pays culturel de ce monde,
oui.
Ce qui est vrai.
Qui est
mais
vrai.
Enfin, on est heureux
que certains le reconnaissent. Oui, exactement. Et c'était, pour moi, je dirais, je l'avais déjà senti dans mes voyages précédents, mais là, dans cette mission particulière, où j'ai pu prendre contact avec des gens très impliqués dans la langue française, j'ai pu confirmer cette impression.
Alors, ce qui est quand même assez fascinant, c'est que nous avons, au fond, notre action en Chine est très importante grâce aux alliances françaises, grâce aux entreprises.
Et grâce au fait qu'on ait pu décider qu'au sein de l'exposition universelle, il y ait un pavillon de la francophonie. C'est important. Et ça a été préparé de longue date par la France, puisque l'Assemblée nationale a reçu des délégations chinoises. Il y a eu énormément de voyages dans toutes les disciplines françaises, que ce soit industriel, artistique et intellectuel, universitaire. Il y a eu déjà en permanence des gens qui sont allés à Shanghai. Et moi, je n'y allais que pour le couronnement sur cette fête de la francophonie.
C'était précis.
C'était 2 jours précis et un jour spécial qui se passait au Parc des Expositions.
Ce qui m'a frappé tout à l'heure lorsque nous avons parlé un peu ensemble, c'est que vous avez été, je dirais, impressionné par le nombre de Chinois qui vraiment s'exprimaient dans un très bon français.
Voilà. La veille de cette journée de la francophone, nous étions reçus dans l'après-midi par le consulat belge et le soir par le consulat français et avec notre ambassadeur, M. Lantzous, qui était là, qui était présent. Et dans ces deux manifestations, l'après-midi, j'ai vu surtout des étudiants, des gens de 13-14 ans, avec lesquels je parlais un français relativement complexe.
Ah oui ?
Et oui, eux le parlaient avec un peu de difficulté. Ils étaient très jeunes, 13-14 ans. Et j'ai été frappé aussi de ce que je regrette un peu chez nous, une déférence vis-à-vis du professeur qui marque, de la part de ses étudiants, un goût de savoir, une volonté d'être, de finalement le respect aussi de celui qui enseigne, qui sait quelque chose et qui leur transmet. Et là, j'ai vu ces jeunes étudiants qui ont choisi le français comme première langue. Et tous ont l'arrière-pensée, visiter Paris, visiter la France, venir en France. Le soir, au consulat français de Shanghai, de l'ambassade de France, il y avait les professeurs. Et là, il y avait plus de 150 professeurs de français chinois qui sont alors là, qui manipulent la langue française presque aussi aisément que nous.
À ce point, bien sûr.
Et il y avait des étudiants de deuxième, troisième année de licence de français, dont certaines m'ont accompagné le lendemain pour visiter Shanghai, et qui parle un très bon français. Je pourrais vous amener aujourd'hui le texte d'un courriel qu'une d'entre elles m'a envoyé hier, parce qu'elle souhaite avoir un stage à Paris, etc. C'est un français très bien, très, très beau.
Très élaboré.
Elle est en deuxième année.
Donc, quand on entend encore dans notre pays certains déclinistes sur l'effacement du français, ce sont des niaiseries, franchement.
Moi, j'ai rencontré M. Laurent Creuset, qui était le responsable de l'Alliance française de Shanghai et qui m'a fait, au contraire, un tableau très optimiste. Alors, c'est un optimisme relatif en nombre, mais pas dans la qualité. Car la diversité des centres d'enseignement du français sous l'impulsion de l'Alliance française, ou même il y a des centres privés où on forme des étudiants français, car le but, c'est de parler français et aussi de venir chez nous. Et là, il y a une fréquentation très bonne avec un grand nombre d'étudiants qui sont passionnés et qui paient aussi leurs cours. Car finalement, alors on dit que les instituts français ont disparu un peu dans le monde. Je crois que le bilan est difficile à faire de ce qui disparaît, de ce qui naît. Mais les alliances françaises sont autonomes sur le plan financier.
Oui, ça c'est vrai. Et donc, il faut le rappeler.
Et donc, enseigner le français est un but apprécié par les gens qui paient suffisamment pour que les écoles se maintiennent. Alors, je sais qu'ailleurs, on a discuté, on a déploré la disparition d'instituts français qui ne sont pas, ou même de lycées français. Et ça, je crois que c'est dommageable. Mais il faut se dire aussi qu'ailleurs, je dirais, l'entreprise privée, enfin, l'alliance, les initiatives privées redéveloppent le français partout. Alors, il y a peut-être une petite arrière-pensée. C'est que le monde chinois a compris que la francophonie recouvrait de larges territoires.
En Afrique.
En Afrique, surtout, où nos confrères africains étaient très nombreux, bien sûr, et qu'il y a peut-être de leur part, dans la possession de la langue française aussi, un accès aux richesses du monde, et en particulier les richesses africaines. Je crois que les Chinois sont fort intelligents et ils sont fort adroits.
Ce qui est vrai.
Et est-ce que moi, présent aussi en Afrique, dans la lutte contre la cécité en Afrique, je m'aperçois que nous côtoyons maintenant très fréquemment des Chinois, pas forcément dans nos disciplines, mais dans le petit commerce, dans tout ça, et que les Chinois ont compris que pour être bien en Afrique, il faut parler français.
Et oui, ils ont le dynamisme de peuple très jeune.
Très jeune,
je me souviens à Hong Kong, avec surprise, quand en France, il y a de ça 20 ans, on disait « le français va mal dans le monde ». À Hong Kong, je me souviens très bien que j'ai appris que les Chinois voulaient absolument connaître le français, etc. Mais pourquoi ? Pour aller à Vancouver et au Canada,
ouais,
où les deux langues officielles étaient l'anglais et le français, l'anglais et le français. Et quand vous connaissiez les deux langues, vous aviez une prime comme fonctionnaire. Que ceux qui ne connaissaient qu'une langue, que l'anglais n'avait pas de prime, etc. Alors, par exemple, à Vancouver, dans l'Alliance française, le plus grand nombre d'élèves, ce sont des Chinois d'origine.
Alors là-bas, je me suis retrouvé naturellement au milieu de tous les ambassadeurs africains présents en Chine et qui représentaient tous les pays d'Afrique francophone. Alors, c'était une assemblée fort sympathique où nous étions représentés, je dois dire, par 80% d'amis africains.
Ah oui,
oui. Et nous avons, je dirais, conçu toutes les réunions et toutes nos actions en fonction de, je dirais, de ce qu'apporte la langue française dans notre communion d'action et de pensée. Et ça, c'était très fort, très puissant. Et ça, on l'a exploré le lendemain, car nous avions la visite officielle de tous les stands parlant français, ce qui était un gros travail, il faisait très chaud. Et nous avons commencé par le pavillon de la francophonie, qui était une sorte de petite école où une Chinoise parlant très bien français faisait rentrer des jeunes Chinois qui ne parlaient pas français et auxquels on donnait des cours ludiques pour apprendre des mots clés. On leur donnait un petit livre pour les inciter à comprendre le français. Et il y avait beaucoup de monde. Et ça passait en permanence, des Chinois visitaient ce stand de la francophonie uniquement par curiosité et aussi parce qu'il y avait cette espèce d'appétit pour sa langue. Et c'était en vérité le seul stand de linguistique.
Ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est tout de même de penser maintenant que justement nous sommes en 2010, les années 80 remontent à il y a maintenant 30 ans, mais dans les années 80, au premier sommet de la francophonie,
oui,
il y avait 42 États et gouvernements représentés. Aujourd'hui, au dernier sommet de Montreux, en Suisse, il y en avait 70 États. Et donc, ça a presque doublé.
Ah, ça a presque doublé. Alors, tous n'ont pas la langue courante administrative, mais il y en a une grande part, et la moitié, la langue administrative. Et là-bas, on le sentait très bien, parce que, en réalité, et c'est une bonne chose, la langue en partage de notre cher et défunt, et aussi Maurice Druon, qui a lancé cette langue en partage, a fait disparaître, je dirais, ce petit relent de colonialisme qui pouvait y avoir dans cet attachement à la francophonie qu'ont les Français, parce que maintenant, c'est plus nous qui l'avons dans les mains.
Ce sont le partage.
Ce sont nos amis africains qui sont dominants et qui ont alors, eux, un attachement. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que leur administration, que les liens avec leur peuple, etc., passent par la précision de la langue française. Et que pour eux, c'est une manière de penser. Et que cette manière de penser, ils n'ont plus aucun frisson de type de subordination à la langue française parce qu'elle était celle de la France. C'est parce que c'est la leur. Et ça, on le sent parfaitement bien.
Ça, c'est tout à fait magnifique ce que vous venez de nous dire, docteur Poulicat. Nous allons peut-être juste nous arrêter un petit instant avant de reprendre dans quelques secondes. Il va s'en dire.
Canal Académie vous propose L'auteur caché, une rubrique ludique pour tester vos connaissances en littérature française. 10 indices, 10 lignes d'extrait en moins de 10 minutes pour découvrir de quel auteur il s'agit. Vous êtes prêts ? À vous de jouer avec L'auteur caché, une rubrique de l'émission À voix lue à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Chers auditeurs, Je reçois aujourd'hui le professeur Yves Poulika de l'Académie française. Et comme vous le savez, cet homme qui est célèbre pour ses recherches sur la cornée a fait et fait un travail remarquable, notamment en Afrique, pour aider de très nombreux malades dans ce domaine-là. Et il vient de se rendre à Shanghai, où il a visité le pavillon, le fameux pavillon de la francophonie. Et il faut rappeler que Shanghai, qui a été une ville très chère aux Français, bien sûr, à l'époque coloniale, mais cette ville avait une fameuse université française qui s'appelait l'université Aurore. Et cette université Aurore a été rattachée à l'université médicale numéro 2. Et lorsque moi-même, cher docteur, j'ai visité cette université il y a 5 ans, il y avait dans cette université, université médicale numéro 2, 1400 professeurs en poste, 300 connaissaient le français, tenez-vous bien sûr en mémoire de l'université. Et d'après le directeur adjoint de l'époque, j'ai même son nom à l'époque, Chen Guilin, qui parlait très bien notre idiome, il y avait vraiment 150 professeurs qui l'utilisaient couramment.
C'est
impressionnant. 1400 professeurs, 300 qui le comprenaient et 150 qui l'utilisaient.
C'est impressionnant. D'ailleurs, il y a une université, un groupe médical franco-chinois qui marche très bien avec des échanges de professeurs. Il y a eu une réunion aussi le lendemain du jour où j'ai visité les stands. Il y avait une réunion de la Société franco-chinoise de médecine qui était très, très, très intéressante, où il y avait des membres de l'Académie de médecine de Paris avec les membres de l'Académie de médecine de Chine.
Est-ce que vous avez l'impression, docteur, que cette relation Chine-France, langue chinoise, langue française, c'est une relation qui va durer, qui ne va pas seulement s'appuyer sur des intérêts vraiment strictement matériels, même si c'est très important, mais que cette fascination pour nos deux univers risque vraiment de continuer parce qu'il y a des esprits de chaque côté qui s'y intéressent. Regardez François Cheng à l'Académie française, par exemple.
Oui, mais je pense que dans ces pays de très haute tradition, ils ne sont pas loin. Je l'avais pensé pour le Japon sous une forme un petit peu différente, mais il y a aussi une grande, une forte tradition chez les Chinois. Il y a cette même forte tradition d'une longue, très longue histoire, même qui précédait la nôtre, quant à l'évolution, je dirais, de l'esprit. Et il y a des coïncidences. Et que finalement, nous sommes les héritiers, les passages culturels au travers des générations laissent les mêmes traces et les mêmes aspirations. Et je pense qu'entre ces populations de très vieilles traditions et nous-mêmes, qui sommes nous-mêmes héritiers des Latins, des Grecs, etc., il y a une connivence qui, à mon avis, là, peut-être je dis quelque chose d'un petit peu gros, mais qui, à mon avis, ne se retrouve pas dans les États-Unis d'Amérique, qui ne se retrouve pas dans l'Amérique latine et qui nous est quand même très spécifique à nous, la vieille Europe.
Je crois que vous avez tout à fait raison parce que nous sommes proches, notamment par la gastronomie, nous sommes proches par le dialogue de l'esprit, par les jeux de mots même.
Oui, bien sûr. Oui. Et François Cheng, qui s'est intégré totalement, qui s'est, je dirais, noyé dans la langue française, m'a expliqué par sa poésie chinoise comment lire Manarmé.
Oh là là,
oui, parce qu'au travers du sens des mots et de la musique des mots, il m'a permis, je le lui ai dit souvent, de lire et de comprendre Mallarmé, qui est quand même un petit peu difficile. Voilà.
Assez hermétique.
Mais il y a dans la composition de la poésie de Mallarmé une procédure qui ressemble à une pensée chinoise. Oui, non, c'est...
D'ailleurs, n'oublions pas, je ne sais pas si c'est Maupassant, j'en suis pas sûr, qui disait, c'est un auteur du 19e siècle, j'ai du mal à retrouver la référence, mais je l'ai lu, j'en suis sûr, disait que les Français étaient les plus chinois d'Europe. C'est-à-dire que par la pensée, la finesse...
Oui. Alors, je souhaiterais qu'ils soient aussi travailleurs que les Chinois.
Ça,
oui, voilà. Voilà, ça
docteur,
serait...
que j'espère que vous allez être entendu.
Voilà.
C'est important.
C'est important.
Mais c'est important. Alors, autre question qui me semble importante. Nos amis africains, dans tout cela, comment nous perçoivent-ils les Chinois? Je veux dire, par là, ils se sentent dans quelle position, justement?
Je crois qu'ils devraient percevoir, enfin c'est une hypothèse, ils devraient percevoir les Chinois comme le stade intermédiaire à leur situation. L'Afrique est en train de
bouger.
Elle bouge, elle a un frisson, c'est en train de partir. Moi-même, au travers des équipes qui travaillent avec moi en Afrique, j'ai des générations de gens très, très formidables qui vont changer l'Afrique. Bon, je pense que c'est un peu le modèle. Parce que quand on imagine la Chine d'il y a 40 ans ou 50 ans...
Oui, c'est impressionnant.
C'est impressionnant, le mouvement. Or, les Africains ont à leur disposition un modèle dont ils vont profiter et que les Chinois importent chez eux, d'ailleurs.
Et alors, pour les Africains, les Français reste, à votre avis...
Non, il y a, si vous voulez, une communauté d'esprit. C'est la frère, c'est famille. Hein. Non, je pense avec les Africains, avec tous ces ambassadeurs, nous avions une conversation de famille. On est les mêmes. Et notre présence en Afrique, quand même, qui fut longue, qui n'a pas été toujours mauvaise, qui a eu ses bons côtés, ont laissé aux Africains au moins le goût d'un certain nombre de pratiques qui ont été éprouvées.
Et peut-être même, cela leur donne-t-il pour beaucoup, la possibilité de choisir, d'être critique, de ne pas se faire avoir.
Parfaitement, mais parfaitement.
Je crois qu'il y a cet aspect.
Et je pense que maintenant, ils envisagent leur adhésion à la langue comme une liberté qui leur permet d'être voltairiens à notre égard, s'ils le veulent.
Ça, c'est vrai qu'il y a un très beau livre à faire sur Voltaire en Afrique.
Ben oui.
On serait surpris par le nombre d'élèves, de disciples de Voltaire.
Bien sûr, mais il y a maintenant une intelligentsia africaine qui indiscutablement acquiert son autonomie, sa liberté, son jugement, la distance vis-à-vis des événements.
Soyons directs, la Chine fait quand même un peu peur aujourd'hui
oui.
à certaines personnes.
Oui.
Est-ce que vous avez ressenti quelque chose qui irait dans ce sens-là
non.
ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Non. Alors, je pense qu'en disant ça, je vais me faire écorcher vif par ceux
non.
qui pensent que...
vous êtes un homme libre.
Qui pensent, oui, que la Chine est encore un modèle fascisant rouge et qui couvre une économie libérale, ce qui est peut-être le principe des grandes dictatures qui nous ont valu la dernière guerre. Bon, c'est ça. Non, je pense que tant que la Chine est là, monsieur l'ambassadeur de France m'a éclairé là-dessus, tant que la Chine, je crois, est composée d'une équipe de plusieurs membres, une dizaine presque, ou 9 ou 10, je crois, elle mélange à la fois l'intelligence libérale et aussi l'intelligence gauche, et qu'ils parviennent à chaque fois à trouver la situation moyenne, je pense que la Chine peut encore parcourir un certain temps comme ça. Ce qu'il ne faut pas à la Chine, c'est une crise.
La seule chose, alors, je ne veux absolument pas vous piéger en m'exprimant ainsi, mais alors, je vois les actualités, cette histoire du Nobel, ce n'est pas un peu surprenant
si, ou... si, c'est un peu surprenant, mais je crois qu'il leur faut les stigmates du pouvoir et un peu de la crainte.
Ah oui, oui.
Et de la crainte pour que le système marche. Et bon, alors, ce sont des concessions qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas.
Puis on oublie tout de même que certains d'entre nous oublient que ce pays de beaucoup plus d'un milliard d'habitants doit être tenu, je n'ai pas dit d'une main de fer, je l'ai dit,
oui.
doit être tenu, et en France, nous avons nous-mêmes nos propres problèmes.
Absolument.
On peut nous reprocher de ne pas travailler assez, ce qui est souvent le cas.
Non, mais écoutez, si on continue comme ça, je crains, je dis quelque chose d'énorme, mais je crains que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants soient employés en Chine. Soit obligé d'émigrer pour vivre. Non, mais si nous continuons à travailler aussi peu, alors que quand on pense que l'Europe fait plus de 40% du travail, de la production du monde, et que nous travaillons si peu, c'est hallucinant. Ça veut dire qu'on a de grandes capacités, mais qu'il faudrait un peu le courage et du nerf pour qu'on se dépasse.
Le courage et le nerf manquent en ce moment en France, c'est vrai, on peut le dire.
Et c'est pas seulement la France, c'est l'Europe.
Et l'Europe.
Alors j'ai visité ces pavillons des Africains.
Des Africains.
Parce que les Chinois, dans un grand hall, ont permis à 45 pays africains de participer à l'exposition universelle. C'est une première.
45 francophones et anglophones, à ce moment-là.
Mélangé, 17 francophones et le reste anglophones.
Est-ce qu'il y a un salon ou quelques salons qui ont retenu particulièrement votre attention, sans vouloir
Non, tous, plus petits. Et puis je les connaissais tous, pratiquement, puisque j'ai travaillé avec la plupart. Mais c'était absolument, c'était simple et charmant. Et à chaque fois, grand honneur de visite, signer le livre d'or, et toujours, je dirais, cette participation à un esprit français, à une culture française, à une manière de penser qui les unissait, qui était très belle. Alors, il faut rendre hommage au président Chirac. C'est grâce, je crois, à son intervention, si je ne m'abuse, que le gouvernement chinois avait mis à la disposition tous les moyens pour que les Africains soient là. Alors, nous avons visité ces 17 pays les uns après les autres, avec leurs particularités, et ils ont fait des choses très, très bien. C'était très visité par les Chinois. Découvrez l'Afrique, les Chinois.
D'ailleurs, il paraît que le pavillon français a été le deuxième pavillon le plus visité de l'exposition, au-delà des pavillons de la francophonie.
Bien sûr.
C'est quand même étonnant.
Étonnant. Alors, parmi les pavillons francophones aussi, nous avons visité le Canada, nous avons visité la Suisse et nous avons visité le français. Pas la Belgique, parce que la Belgique représentait l'Union européenne.
Ah là là, oui.
Ça n'était pas typiquement dans le cadre de la francophonie. Alors, tous ces pavillons suisses, ces pavillons canadiens...
étaient appréciés ?
Oui, ils ont fait surtout une évocation, vous savez, dans une imagerie très complexe.
Très technologique.
La France a fait quelque chose très français.
Romantique.
Oui, très français. Très français. Alors, les opinions sont partagées. Moi, j'ai trouvé que c'est un très beau pavillon parce qu'il avait été conçu sur un plan d'eau. Cette grande cage était en fait un quadrilatère creux. À l'intérieur de ce quadrilatère, monté sur les flancs des jardins verticaux, qui se terminaient en terrasse par un grand jardin à la française. Et il y avait au centre des jets d'eau, etc., qui donnaient une fraîcheur formidable. Et c'était extrêmement visité parce que l'astuce, c'était de monter sur la terrasse et de redescendre. Il y avait un énorme chemin très large qui descendait en pente douce tout autour du quadrilatère. Et nous passions du charme de Paris aux villes de province, aux films français, aux parfums, à la vie parisienne, aux guinguettes.
Ça ne faisait pas trop désuet, non.
Non, alors c'est peut-être pas tout à fait assez industriel.
Ah, voilà. J'ai eu quelques
échos. Alors que les Allemands nous en ont mis plein la vue de l'industrie, de la technique, etc. Là encore, on est des latins, qu'est-ce que vous voulez dire ?
D'un autre côté, eux, ils ont Mercedes, nous avons LVMH.
Oui, c'est vrai, on vit du luxe. On a une industrie de luxe qui est très appréciée. Alors, on a les cognacs, on avait tout ce qu'est le luxe. Peut-être qu'on aurait pu tout de même...
Oui.
Alors, les fusées, bien sûr, mais c'était à peine évoqué. Enfin,
Total n'est pas une mauvaise société,
Non. Mais on n'a pas forcé là-dessus. Par contre, la conception était fort agréable.
Et peut-être que les autres pavillons ayant forcé justement sur l'industrie, peut-être qu'au fond, les Chinois ont apprécié quelque chose de différent qui les réconfortait un peu.
Il y avait une visite, des visites, c'est des millions de visiteurs.
Donc, si je comprends bien... Vous n'êtes pas du tout pessimiste après votre visite en Chine.
Non, je ne suis pas pessimiste pour deux raisons. Parce que d'abord, un grand pays émergent qui choisit le français avec détermination, parce qu'il faut bien parler anglais aussi, parce que avec détermination...
Maurice Druon disait, parler l'anglais est une nécessité, mais parler le français demeurera jamais un privilège.
L'anglais, malheureusement, est aussi massacré.
Oui. Le globish, ce que Marc Fumarelli appelle le globish.
Oui, c'est massacré, hélas, pour l'anglais, qui est une fort jolie langue quand on la parle très bien. Alors que je pense que le français qu'on apprend est un français, moi, au travers de mes amis africains et au travers des récents amis chinois, est un français de grande qualité. De très grande qualité.
Je pense que la quantité, si vous voulez, ça me fait penser tout de suite, en exagérant un peu, surtout aux États-Unis, la qualité reste quelque chose de très français. Et je crois que nous nous trompons si nous allons vers le quantitatif plutôt que le qualitatif.
Absolument.
Vous êtes d'accord avec moi?
Absolument. Et d'ailleurs, je dois dire que si vous voulez, l'effort que fait l'Académie française dans la construction de son dernier dictionnaire auquel je participe et qui est vraiment une œuvre très très solide, vous verrez qu'avec les apports de la commission interministérielle, les créations de mots, etc., qui valent les mots anglais d'une certaine façon, qui n'auront peut-être pas leur destination, je dirais, aussi
épanouie,
mondialisée, mais n'empêche que le français reste une langue extrêmement précise et tous les travaux que l'on fait, aussi bien le service du dictionnaire, la commission du dictionnaire et l'Académie française, restera accompagné de tous ceux qui s'occupent de la langue française autour, et Dieu sait qu'il y en a, restera quand même une œuvre très valable.
Docteur, je vous remercie infiniment. Et voyez, l'Académie accueille bien entendu François Cheng, mais plusieurs autres académiciens comme le docteur Poulika qui s'intéressent à tout ce qui est en français dans le monde et aux données, aux recevoir, aux échanges culturels. Nous vous remercions infiniment et je suis très heureux de vous avoir reçu, cher
ami. Non, mais c'est un plaisir d'être avec vous, cher ami. Thank you.